Intermède 3. La splendeur de l'ignorance. Sept fils-fils Valano, avérites de Chinovar, étaient assis sur le plancher de la taverne où la bière de Lavie imprégnait lentement son pantalon marron. Sale, usé, effiloché, ses vêtements étaient très différents des blancs simples, mais élégants, qu'il portait plus de 5 ans auparavant, lorsqu'il avait assassiné le roi d'Aletkar. Tête baissée, mains sur ses genoux, il ne portait aucune arme. Il n'avait pas invoqué sa lame d'éclat depuis des années, et il lui semblait ne pas avoir pris de bain depuis tout aussi longtemps. Il ne se plaignait pas. S'il avait l'apparence d'un misérable, les gens le traitaient comme tel. On ne demandait pas à un misérable d'assassiner des gens. « Donc, il fera ce qu'on lui dira ?» s'interrogea un des mineurs assis à la table. Ses vêtements ne valaient guère mieux que ceux de Seth, couverts de poussière et de saleté au point qu'il devenait difficile de distinguer la peau crasseuse du tissu crasseux. Ils étaient 4 qui tenaient des coupes de céramique. La pièce sentait la boue et la sueur. Le plafond était bas, les fenêtres, uniquement du côté soulevant, n'étaient que des fentes. La table était maintenue de façon précaire par plusieurs courroies de cuir, car le bois était fendu en son milieu. Touk, le maître actuel de Seth, posa sa coupe du côté penché de la table. Elle ploya sous le poids de son bras.
« Ouais, je vous assure. Hé, hey, Courpe, regarde-moi »
Seth leva les yeux. Courpe signifiait « enfant » dans le dialecte bavane local. Seth était habitué à ces étiquettes péjoratives. Bien qu'il soit dans sa 35e année, et sa 7e depuis qu'on l'avait nommé Avérite, les grands yeux ronds de son peuple, leur petite taille et leur tendance à la calvitie, poussaient les Orientaux à leur trouver une ressemblance avec des enfants.
« Lève-toi !» dit Touk.
Seth s'exécuta.
« Saute sur place !»
Seth obéit.
« Verse la bière de tonne sur ta tête !»
Seth tendit la main.
« Hé !» s'exclama Tonne en retirant sa coupe. « Pas de ça, j'en ai pas encore fini !»« Si c'était le cas, répondit Touk, il ne pourrait pas se la verser sur la tête, n'est-ce pas ?»« Fais-tu faire autre chose, Touk ?» ronchonna Tonne. « D'accord !»
Touk tira le couteau de sa botte et le lança à Seth.
« Courpe, entaille-toi le bras !»«
Touk !» dit l'un des autres. Un homme méprisant nommé Amark. « C'est mal, vous le savez. » Touk ne revint pas sur son ordre, et Seth obéit donc, prit le couteau, et s'entailla la chair du bras. Du sang se mit à couler autour de la lame sale.
« Tranche-toi la gorge !» dit Touk.
« Voyons, Touk !» s'exclama Amark en se levant.
« Je ne compte pas te laisser... »«
Oh, taisez-vous !» dit Touk.
Plusieurs groupes d'hommes les observaient à présent depuis les autres tables.
« Vous allez voir. Courpe, tranche-toi la gorge. »«
Il m'est interdit de prendre ma propre vie, » répondit doucement Seth dans la langue bavane. « En tant qu'avérite, il est de la nature de ma souffrance de me voir interdire le goût de la mort de ma propre main. »
Amark se rassit, l'air penaud.
« Mère de poussière !» commenta Tonne. « Il parle toujours comme ça ?»«
Comme quoi ?» demanda Touk en prenant une gorgée de sa tasse.
« Avec des mots doux et recherchés, comme un paliris ?»«
Ouais, »
répondit Touk.
« Il est comme un esclave, mais en mieux, parce que c'est un chinov. Il ne s'enfuit pas, il ne répond pas, ni rien. Je n'ai pas le payé non plus. Il est comme un parche, mais en plus intelligent. Je dirais qu'il vaut un bon paquet de sphères. »
Il mesura les autres du regard.
« Vous pourriez l'emmener travailler aux mines avec nous et prendre sa paix. Il ferait tout ce que vous ne voulez pas faire. Nettoyer les cabinets, repeindre la maison, toutes sortes de trucs utiles. »
« Et donc, comment l'avez-vous trouvé ?» demanda l'un des autres en se grattant le menton. Touk était un travailleur itinérant qui se déplaçait d'une ville à l'autre. Montrer Seth était l'une de ses méthodes pour se faire rapidement des amis.
« Eh bien, quelle histoire !» répondit Touk. « Je voyageais dans les montagnes, plus bas, au sud, vous savez, et j'ai entendu un cri bizarre. »«
C'était pas que le vent, vous savez, et... » Cette histoire était inventée de toutes pièces.
Le maître précédent de Seth, un fermier d'un village proche, l'avait donné à Touk en échange d'un sac de graines. Le fermier le tenait d'un marchand itinérant qui le tenait lui-même d'un cordonnier qui l'avait gagné lors d'un jeu de hasard illégal. Il y en avait eu des dizaines avant lui. Au début, les sombres iris appréciaient l'impression de nouveauté qu'ils éprouvaient en se l'appropriant. Les esclaves coûtaient bien trop cher pour la plupart, et les parches étaient encore plus précieux. Avoir quelqu'un comme Seth à qui donner des ordres était donc une grande nouveauté. Il lavait le sol, sciait le bois, aidait aux champs et transportait de lourdes charges. Certains le traitaient bien, d'autres non. Mais il se débarrassait toujours de lui. Peut-être percevait-il la vérité, le fait qu'il soit capable de tellement plus qu'il n'osait lui demander. C'était une chose d'avoir un esclave à soi. Mais quand cet esclave parlait comme un paliris et en savait plus que vous, ça les mettait mal à l'aise. Seth s'efforçait de jouer son rôle, de s'obliger à moins de raffinement dans ses actions. Ça lui était très difficile, peut-être impossible. Que diraient ces hommes s'ils voyaient que celui qui vidait leur pot de chambre était un porte-éclat, ainsi qu'un fluctome ancien, un marchevent, comme les radieux d'antan? Dès l'instant où il ferait apparaître sa lame, ses yeux passeraient du vert sombre au saphir pâle, presque luisant, un effet unique de son arme particulière. Mieux valait qu'il ne le découvre jamais. Seth se glorifiait que l'on gâche ses talents. Chaque jour où on lui faisait nettoyer ou creuser au lieu de tuer était une victoire. Cette soirée-là, 5 ans plus tôt, le hantait encore. Auparavant, on lui avait déjà ordonné de tuer, mais toujours en secret, en silence. Jamais encore on ne lui avait donné d'instructions aussi délibérément terribles. Tuez, détruisez, frayez-vous un chemin jusqu'au roi, assurez-vous que d'autres vous voient, laissez des témoins, blessés, mais vivants.
Et c'est là qu'il a juré de me servir toute ma vie, conclut Touk. Il est avec moi depuis.
Ses auditeurs se tournèrent vers Seth. C'est vrai, dit-il, comme on lui en avait donné l'ordre plus tôt. Chaque mot. Touk sourit. Seth ne le mettait pas mal à l'aise. Il trouvait apparemment naturel que Seth lui obéisse. Peut-être par conséquent resterait-il son maître plus longtemps que les autres.
Eh bien, dit Touk, faut que je me rentre. Je dois me lever tôt demain. D'autres endroits à visiter, d'autres routes inconnues à braver.
Il aimait se considérer comme un voyageur aguerri, bien qu'il ne fasse, pour autant que Seth puisse le déterminer, que se déplacer selon un large cercle. Il y avait de nombreuses petites mines et par conséquent de petits villages dans cette partie de la Bavanie. Touk était sans doute déjà venu dans ce village des années auparavant, mais les mines accueillaient beaucoup de travailleurs itinérants. Il était peu probable qu'on se souvienne de lui, à moins que quelqu'un n'ait prêté attention à ces histoires affreusement exagérées. Affreuse ou pas, les autres mineurs semblaient curieux d'en savoir plus. Ils le pressèrent de poursuivre et lui offrirent un autre verre qu'il accepta avec modestie. Seth était assis en silence, jambes croisées, mains sur les genoux, du sang coulant le long du bras. Les Parchendis savaient-ils à quoi ils l'avaient contraint en jetant sa pierre de serment tandis qu'il fuyait Kolinar cette nuit-là? On avait demandé à Seth de la récupérer, puis de rester debout, au bord de la route, à se demander s'il serait jamais découvert et exécuté, à espérer qu'il le soit, jusqu'à ce qu'un commerçant de passage prenne la peine de lui demander ce qu'il faisait là. Jusque-là, Seth n'était vêtu que d'un pagne. Son honneur l'avait forcé à jeter le vêtement blanc qui l'aurait rendu plus facile à reconnaître. Il devait se préserver afin de pouvoir souffrir. Après une brève explication qui laissait de côté les détails compromettants, Seth s'était retrouvé en train de voyager à l'arrière de la charrette du commerçant. Ce dernier, un dénommé Avado, avait eu l'intelligence de comprendre que les étrangers risquaient d'être maltraités après la mort du roi. Il avait poursuivi jusqu'à Jacques et Ved sans jamais soupçonner qu'il avait recueilli comme serviteur le meurtrier de Gavilar. Les Aletti ne le recherchaient pas. Ils avaient supposé le tristement célèbre assassin en blanc parti avec les Parchendis. Il s'attendait sans doute à le découvrir au beau milieu des plaines brisées. Les mineurs finirent par se lasser des histoires que Took racontait en articulant de moins en moins. Ils lui firent leurs adieux, ignorant ses allusions au fait qu'une autre coupe de bière le convaincrait de raconter son meilleur récit, celui de la fois où il avait vu la vieille nuit en personne et volé une sphère qui brillait la nuit d'un éclat noir. Ce récit mettait toujours Seth mal à l'aise en lui rappelant l'étrange sphère noire que Gavilar lui avait donnée. Il l'avait soigneusement cachée à Jacques Eved. Il ignorait de quoi il s'agissait, mais il ne voulait pas courir le risque qu'un maître la lui prenne. Comme personne n'offrait d'autre verre à Took, il quitta sa chaise en titubant à contre-cœur et fit signe à Seth de le suivre hors de la taverne. Dehors, la rue était sombre. Cette ville, Voie d'Airain, possédait une véritable place, plusieurs centaines de foyers et 3 tavernes différentes, ce qui en faisait quasiment une métropole pour la Bavanie, la petite zone presque ignorée juste au nord des montagnes proches de Sinnazen. La zone faisait techniquement partie de Jacques Eved, mais même son haut-prince avait tendance à rester au loin. Seth suivit son maître à travers les rues menant au quartier le plus pauvre. Took était trop radin pour payer une chambre dans les beaux quartiers d'une ville, ou même dans les modestes. Seth regarda par-dessus son épaule, regrettant que la deuxième sœur, que ces orientaux connaissaient sous le nom de Nomon, se soit levée pour donner un peu plus de lumière. Took tituba d'un pas ivre, puis tomba dans la rue. Seth soupira. Ce ne serait pas la première nuit qu'il porterait son maître jusqu'à son lit. Il s'agenouilla pour le soulever, puis s'arrêta net. Un liquide tiède s'accumulait en dessous du corps de son maître. Alors seulement, il remarqua le couteau planté dans le cou de Took. Seth s'anima instantanément tandis qu'un groupe de voleurs se glissait hors de la ruelle. L'un d'eux leva une main, tenant un couteau qui refléta la lumière des étoiles, et se prépara à le jeter vers Seth. La bourse de Took contenait des sphères infusées dans lesquelles il pouvait puiser.
« Attendez !» siffla l'un des voleurs.
L'homme au couteau hésita. Un autre s'approcha pour inspecter Seth.
Il est chinov, il ferait pas de mal à un crémillon.
Les autres tirèrent le corps dans la ruelle. Celui qui tenait le couteau leva de nouveau son arme.
Mais il pourrait crier. Alors pourquoi il l'a pas fait? Je te jure, ils sont inoffensifs, presque comme les parches. On pourrait le vendre.
Peut-être, dit le deuxième. Il est terrifié. Regarde-le un peu.
Venez ici,
dit le premier voleur en faisant signe à Seth d'approcher. Il obéit et s'avança dans la ruelle qui se retrouva soudain éclairée lorsque les deux autres voleurs ouvrirent la bourse de Took.
« Kelek, dit l'un d'entre eux, « ça mérite à peine l'effort. Une poignée de brisures et 2 marques, et pas un seul brome dans le tas. »«
Tu sais quoi ?» dit le premier homme. « On pourrait vendre ce garçon comme esclave. Les gens aiment les serviteurs chinov. Ce n'est qu'un gamin. »«
Non, c'est l'aspect qu'ils ont tous. Hé, c'est quoi ça ?»
L'homme arracha de la main de celui qui comptait leur gain un morceau de roche scintillant de la taille d'une sphère. Il était très ordinaire, simple fragment rocheux comportant quelques cristaux de quartz ainsi qu'un filon de fer rouillé d'un côté.
« C'est quoi ce truc ?»«
Aucune valeur, » dit l'un des hommes.
« J'ai l'ordre de vous informer, » déclara Seth calmement, « que vous tenez ma pierre de serment. Tant que vous la possédez, vous êtes mon maître. »
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda l'un des voleurs en se levant. Le premier referma sa main sur la pierre et jeta un coup d'œil méfiant aux autres. Puis, il reporta son regard vers Seth.
« Votre maître ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? En termes précis et tout ça ?»«
Je dois vous obéir, » dit Seth, « en toute chose, bien que je ne puisse obéir à l'ordre de me tuer. » On ne pouvait pas non plus lui commander de céder sa lame. Mais il n'était pas nécessaire de le préciser pour l'instant.
« Vous allez m'obéir ?» demanda le voleur. « Vous voulez dire faire tout ce que je vous dirai ?»«
Oui. »«
Tout ce que je vous dirai ?»
Seth ferma les yeux.
« Oui. »« Eh ben, c'est très intéressant, ça, » répondit l'homme songeur.
« Vraiment, très intéressant. »